20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Mediolanum, voici un nom, un toponyme d'une rare banalité durant l'Antiquité. Pour preuve, les villes de Milan, Évreux ou Saintes le portèrent. Toutefois, une seule se dénomma Mediolanum Biturigum, aujourd'hui enfoui sous un petit village berrichon, Château-Maillan. Château-Maillan, c'est son clocher, son marché, son café. Comme ses 1933 âmes, c'est aussi son musée, son joli musée, né des fouilles des archéologues et qui intègre quelques merveilles, sculptures gauloises, trésors romains, fraîchement sortis de terre. Cela tombe bien sous la houlette de Sophie Cross, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Une équipe d'archéologues investit chaque été la fouille de ce fameux oppidum de Château-Maillan, grande cité du peuple des Bituriges. Je me suis donc rendu sur le terrain, au cœur du Cher, pour en savoir plus sur ses recherches de Mediolanum Château-Maillan. Sophie Cross, où sommes-nous ?
Dans le département du Cher, un oppidum dont le nom antique est Mediolanum. Nous sommes sur un chantier école qui existe depuis 18 ans maintenant et qui est le chantier école de l'université de Bordeaux-Montaigne et qui accueille donc des étudiants en formation, alors qu'ils sont au niveau licence, master plutôt pour la plupart, et certains étudiants aussi en doctorat.
C'est une chose qui est de plus en plus rare, ce genre de chantier ?
Alors il en existe encore, hein, dans certaines régions, enfin dans la plupart des régions françaises, on a des chantiers programmés. En région centre, ça devient assez rare en effet.
Et tous ces étudiants se vouent à devenir des archéologues de terrain ?
Alors la plupart de ceux qui sont ici, oui, ce sont des étudiants qui ont déjà pas mal d'expérience, qui viennent sur mon chantier depuis plusieurs années, qui ont fouillé aussi sur d'autres chantiers, et eux se destinent vraiment à l'archéologie de terrain, soit pour le préventif, soit pour le programmé.
En tout cas, 18 ans sur un chantier, n'est-ce pas trop ?
Alors c'est... Non, je pense que c'est pas trop, parce que plus on fouille et plus on veut fouiller... Parce que plus on fouille et plus on découvre le site archéologique et ses secrets, en quelque sorte. Non, je crois que c'est pas trop. Et en plus, en vieillissant, comme c'est mon cas, j'étais très jeune quand j'ai commencé. Je le suis beaucoup moins aujourd'hui. J'ai appris tellement de choses sur ce chantier, donc j'ai pas envie d'arrêter. Je pense que je pourrais y fouiller jusqu'à ma retraite et peut-être même après.
Nous sommes là sur le terrain, sur une sorte de proéminence en forme de haricot.
Alors ici, nous sommes au sommet du promontoire de l'oppidum. Donc, c'est un promontoire qui couvre une surface de 25 hectares environ, qui mesure une dizaine de mètres de hauteur et qui a été équipé par un énorme rempart. Alors en réalité, il y a deux remparts. Un premier rempart qui est construit vers 100 avant Jésus-Christ, qui est un Murus Gallicus, qui est un rempart qui est tout à fait conforme à la description de Jules César en 52 avant Jésus-Christ, pendant la guerre des Gaules à Avaricum. Et ce Murus Gallicus a été renforcé une cinquantaine d'années plus tard, c'est-à-dire vers 50 avant Jésus-Christ, par un énorme rempart massif qui, lui, couvre une largeur de 75 mètres, c'est-à-dire 30 mètres de large pour son talus et un fossé de 45 mètres de large à l'avant. Une énorme fortification.
La ville contemporaine s'est implantée aussi au même endroit ?
Oui, absolument. Alors la ville actuelle de Château-Maillan est installée sur l'intégralité de l'oppidum, à l'exception de 3 hectares environ au sud. Et c'est là que nous fouillons, puisque la commune de Château-Maillan a acquis pendant une trentaine d'années environ, parcelle par parcelle, petit morceau par petit morceau, cette grande prairie que nous voyons ici, et qui est une réserve archéologique, une vraie réserve, qui a été acquise donc par cette commune pour faire des fouilles.
Pourquoi des populations se sont-elles implantées ici ? Parce que nous sommes sur une sorte de faible hauteur ?
Alors ici, on est certainement dans un endroit assez stratégique dans le sud du Berry. Alors d'abord, on est à la limite du bassin parisien et du massif central, en plein centre de la France, dans un endroit où il y avait certainement beaucoup de passages, hein, déjà à l'époque gauloise. Et donc les Gaulois ont choisi cette petite hauteur. C'est pas la plus haute du secteur, il y a des collines autour qui sont beaucoup plus hautes. Ils n'ont pas choisi la hauteur la plus haute, mais ils ont sans doute choisi la plus jolie. celle qui a une forme quadrangulaire, hein, c'est un promontoire rectangulaire, et qui est encadré par deux rivières parallèles. Ça lui donne une allure un peu particulière. Et son nom de Mediolanum est peut-être expliqué par cette position particulière, puisque ce nom de Mediolanum est un nom gaulois qui veut dire soit la plaine du milieu, soit au milieu de la plaine. Et donc on peut identifier ce promontoire coincé entre ces deux rivières parallèles, donc qui est peut-être au milieu de quelque chose.
Comment sait-on le nom de ce site-là, justement, Mediolanum ?
Alors, ce nom, on le connaît, on a deux mentions, en fait, d'une part sur la table de Peutinger, qui est une carte pour les commerçants de l'Empire romain, qui date du 4e siècle après Jésus-Christ, et qui indique très clairement, à cet emplacement où nous sommes ici, le nom de Mediolanum, qui est une station routière coincée entre Argentomagus, qui est une autre station bien connue, et Néry-les-Bains. Et la deuxième mention qu'on a de Mediolanum, c'est sur un objet archéologique qui est une borne milière, donc une borne de route, sur laquelle sont indiquées les distances entre Mediolanum et Avaricum, donc la capitale des Bituriges. Cette borne a été trouvée au 19e siècle à Bruère-Alichamps, qui est une commune du Cher qui est située à quelques kilomètres au sud de Bourges.
Cela avait un vrai intérêt de s'implanter sur une sorte de petit plateau qui est quand même très faible en hauteur.
Alors, on ignore l'intérêt que les Gaulois y portaient, hein, bon, soit un intérêt stratégique, topographique, on ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que avant que les remparts soient construits, on avait ici une agglomération sans remparts, donc on appelle agglomération ouverte, et qui existait déjà dès les années 180 avant Jésus-Christ. Hein, le premier rempart date des années 100 avant Jésus-Christ, donc il a été construit presque un siècle après l'implantation de la première agglomération.
Qu'est-ce que l'on sait sur cette agglomération ? On peut parler d'ailleurs de ville ?
Alors pour la première agglomération, c'est peut-être pas tout à fait une ville. C'est une agglomération peut-être en voie d'urbanisation. D'ailleurs, l'histoire montre qu'elle s'est développée sous forme d'une ville à partir du moment où le rempart a été construit, le premier rempart construit. Là, on a, à l'époque du premier rempart, une véritable ville qui se développe. Dans l'agglomération précédente, on a certainement déjà des gens très riches qui habitent ici, et qui font venir d'Italie de très très grandes quantités de vin. On a retrouvé à Châteaumeillan, et le site est célèbre pour ça, de très très grandes quantités d'amphores complètes. On a des centaines d'amphores qui sont arrivées ici au début du IIe siècle avant Jésus-Christ.
Donc très tôt.
Très tôt. Les toutes premières importations de vin italien qui arrivent en Gaule, qu'on trouve dans d'autres endroits de Gaule, hein, comme au Mont-Beuvray ou ailleurs, on en a des traces très très importantes à Châteaumeillan.
Qu'est-ce que vous aviez dans cette cité, hormis ces caves pleines, remplies d'amphores à vin ? Vous avez vu la structure des assemblages urbanistiques ?
Alors oui, depuis 18 ans, alors j'ai d'abord fouillé sur les remparts, ensuite j'ai fouillé dans l'habitat, et on a dégagé en fait entre 2007 et 2017, donc c'est assez récent, un grand quartier d'habitat, dans lequel on a des maisons d'habitation, mais aussi des ateliers d'artisans. On a beaucoup d'ateliers, principalement des ateliers de potiers, donc qui ont produit de la céramique. Et maintenant, nous travaillons sur... on recherche en fait les poteries qui ont été fabriquées à Châteaumeillan. On les recherche dans les sites qui se trouvent autour pour savoir à quel endroit les artisans de Châteaumeillan exportaient leur production.
Sophie Cros, on peut s'imaginer donc une zone commerciale, une sorte de marché ?
Oui, alors comme dans la plupart des oppidas, on a dans ces sites une fonction commerciale qui est bien avérée aujourd'hui, avec des ateliers d'artisans qui produisent des produits commerciaux évidemment en grande quantité. Ça peut être de la céramique, de l'armement, des bijoux, toutes sortes de choses qui sont ensuite exportées. C'est comme des plaques tournantes en fait, hein, ces oppidas sur le plan commercial. Un commerce qui peut avoir une diffusion locale, régionale, mais qui peut aussi diffuser des produits beaucoup plus loin. On a par exemple ici, à l'époque gauloise, des meules qui sont fabriquées, des meules à grains pour faire de la farine, et qui ont une forme très spécifique et qu'on retrouve jusque dans le nord de la région centre, à Chartres par exemple.
Et donc qui pouvaient être vendues ici ?
Oui, alors qui pouvaient être achetées ici par des colporteurs qui venaient de très loin, à moins que les artisans de Châteaumeillan aillent sur des marchés à différents endroits. Il devait y avoir beaucoup de choses comme ça, des marchés dans différents oppidas qui permettaient aux gens de s'approvisionner, et sans doute à très très longue distance.
S'il y a agglomération, c'est qu'il y a forcément un pouvoir. On a une idée du pouvoir donc qui pouvait se trouver sur Mediolanum ?
C'est ce qu'on connaît le mieux ici. En fait, on a un territoire qui est déjà très grand. Hein. C'est un des plus vastes territoires de la Gaule, en plein centre de la Gaule. Et dans ce territoire, on a toute une série d'oppidas qui s'organisent autour d'une capitale qui est Avaricum. Donc c'est le nom antique de Bourges. Et ce qu'on suppose aujourd'hui, c'est que Avaricum représentait un pouvoir central. Et dans les oppidas qui se trouvent autour, à 50 km de la capitale environ, on pouvait avoir donc une espèce de délégation de pouvoir ou de certains pouvoirs qui permettaient à ces sites d'être peut-être autonomes en partie sur le plan politique et de maîtriser un certain nombre de choses sur leur propre territoire, notamment ces courants commerciaux donc qui pouvaient être maîtrisés à leur niveau.
Donc des sortes de villes satellites ?
Alors on peut les appeler villes satellites, effectivement, ou villes appartenant à un réseau, avec donc toute une série de ramifications à la fois politiques et économiques. Ça, ce sont des études en cours et qui avancent assez bien aujourd'hui, en particulier sur des territoires comme celui des Bituriges, donc du Berry, qui sont aujourd'hui bien connus grâce à de très très nombreuses fouilles depuis une quarantaine d'années.
Les Bituriges, c'est un peuple très puissant.
Alors c'est un peuple très puissant et très modeste aussi, puisqu'ils se nommaient eux-mêmes dans leur langue les rois du monde. Un biturige, ça veut dire les rois du monde. C'est certainement un des peuples les plus puissants de la Gaule, c'est un des peuples qui possède un des plus grands territoires. Mais malheureusement, on a assez peu de textes sur les Bituriges. César en parle très peu, on a quelques mentions dans Strabon au 1er siècle après Jésus-Christ, mais pas grand-chose sur les textes.
Donc on peut penser que vers 180 avant notre ère, l'agglomération s'implante.
Oui, on a une agglomération qui s'implante donc sur ce promontoire. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de traces antérieures à cette époque-là. Donc, ce qui laisse penser qu'il n'y avait rien en fait au moment où les Gaulois se sont implantés ici, vers 180, enfin entre 200 et 180 avant Jésus-Christ.
Ensuite, vers 100, on commence à construire un premier rempart. Pourquoi ?
Alors, pour quelles raisons, c'est la question qu'on se pose sur tous les oppidas d'Europe. C'est un mouvement général, hein, vers 100 avant Jésus-Christ, peut-être même dès 120, les oppidas, enfin l'Europe entière se couvre d'oppidas celtiques qui aménagent des remparts, pour la plupart, du type qu'on a à Châteaumeillan, c'est-à-dire de type Murus Gallicus. Mais pour quelles raisons ? On ne sait pas, puisque ces remparts-là, en fait, alors sont peut-être des remparts en partie défensifs, mais ils ne sont pas très efficaces sur le plan militaire. Donc on se demande si ce ne sont pas plutôt des remparts de prestige qui permettent de délimiter un espace politique, justement, dans ces villes naissantes.
Et puis peut-être l'aspect commercial. On contrôle les denrées qui sortent et qui rentrent ?
Oui, peut-être plus un rôle plutôt de protection qu'un rôle militaire proprement défensif.
Alors on va monter sur une petite butte juste là, et d'un seul coup, le mur s'étire. Vous dites Murus Gallicus, qu'est-ce que cela représente exactement ?
Alors ce terme de Murus Gallicus, donc c'est une expression latine, qui est celle que les archéologues emploient aujourd'hui, et si on l'emploie, c'est parce que c'est de cette façon-là que César nomme les remparts gaulois. Mur gaulois, Murus Gallicus. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un rempart que César a vu à Bourges, donc en 52 avant Jésus-Christ, au moment où il s'apprête à faire le siège de la capitale des Bituriges. Et il décrit donc un rempart en bois, c'est un rempart à armature en bois. Ce sont des poutres entrecroisées et qui sont remplies, dont le comblement est fait avec de la terre, des pierres. Ce sont des remparts qui sont pas très hauts, hein, qui mesurent entre 4 et 6 mètres de hauteur. Ils sont pas très larges non plus, autour de 6 mètres de large. Donc c'est comme un mur, hein, mais c'est un mur en terre et en bois. Et sur la façade de ce mur, pour que les gens qui arrivent sur l'oppidum soient bien impressionnés, les Gaulois plaquent des grosses pierres équarries. Donc c'est ce qu'on voit ici. Hein, ce sont des très belles pierres de taille, mais à angle arrondi. C'est très différent comme appareillage de ce que les Romains peuvent faire par la suite. Hein. Donc ce sont des murs gaulois, un peu fantaisistes, avec à la fois des pierres quadrangulaires, carrées, rectangulaires, mais aussi des pierres rondes qui sont insérées dans ce parement.
C'est en général aussi des murs qui possèdent des clous, des murs cloués.
C'est vrai que la plupart des Murus Gallicus, c'est une de leurs caractéristiques en Europe. Les poutres sont clouées à chaque entrecroisement. Mais ici, à Châteaumeillan, nous fouillons depuis 2 mois maintenant et nous n'avons trouvé aucun clou. Donc c'est une exception. Ce n'est pas le seul hein, qui n'a pas de clou. Mais donc on ne sait pas pourquoi. Il va falloir qu'on analyse ça après la fouille. Mais nous n'avons trouvé aucun clou.
Mais ce que l'on voit très bien, ce sont des sortes de traces de poutres qui sortent du rempart, là, et dont on aurait juste les négatifs, tous les, quoi, 50 cm, un peu plus, 60 ?
Absolument. Alors, en fait, c'est sous le parement du rempart, on voit les emplacements des poutres qui dépassaient à l'avant du rempart. Parce qu'en fait, ces remparts-là sont des remparts décoratifs. C'est pour ça qu'on parle de parement, d'ailleurs, hein, dans le sens de parure. Et en fait, alternent sur le parement des pierres et des pièces de bois qui dépassaient ou pas. Hein, mais ici, on voit qu'elles dépassaient légèrement. Et toutes celles qu'on voit à la base du mur ont sans doute servi à régler l'horizontale du mur, puisque ce mur se tient sur une ligne parfaitement horizontale. Donc les Gaulois avaient certainement des connaissances mathématiques qui leur permettaient de régler à l'horizontale parfaitement un mur.
Et puis donc ce mur repose sur une sorte de grosse butte, qui est, on va dire, en argile.
Alors c'est effectivement un support en argile, alors qu'on appelle glacis, donc est un terme militaire en fait, hein, qui désigne en fait une rampe, une pente qui se trouve devant le rempart, qui n'est pas fait pour être monté, mais qui est faite pour constituer un obstacle qui est assez pentu, et donc les militaires appellent glacis. Donc c'est tout à fait caractéristique de ce qu'on peut trouver à l'avant d'un rempart de ce type, devant lequel il n'y a pas de fossé. Dans la plupart des cas des Murus Gallicus, il n'y a pas de fossé à l'avant.
Ici, vous avez un fossé ?
Devant le Murus Gallicus, non, mais devant le rempart postérieur, oui.
Ce mur, il est extrêmement bien construit ou est-ce qu'il aurait quand même quelques petits défauts ? J'ai l'impression que les pierres sont juste les unes sur les autres, ce qui quand même doit fragiliser pas mal le mur.
Alors d'abord, c'est un mur de pierre sèche, mais c'est un faux mur, parce que c'est un plaquage, hein, c'est plus un plaquage qu'un vrai mur. Bah, je pense qu'il n'est pas vraiment fragile, parce que donc là, nous l'avons ouvert sur 25 mètres de long, il est ouvert depuis 2 mois et il ne bouge pas. Il a pourtant un peu plus de 2000 ans.
Et quelle pouvait être la durée de vie de ce genre de choses ?
Alors, on ne sait pas exactement, mais sans doute pas très longtemps, quelques dizaines d'années seulement, parce que il ne faut pas oublier que l'intérieur du rempart est en terre et en bois, surtout. Le bois finit par pourrir, donc tout ça finit par s'écrouler. Et on peut imaginer qu'au bout de 2, 3, peut-être 4 générations, il fallait le reconstruire complètement ou refaire un nouveau rempart. C'est ce qui a été fait ici, c'est le choix qui a été fait par les Gaulois de Châteaumeillan, de refaire un rempart tout neuf.
Ce mur gaulois est donc détruit et l'on va reconstruire un autre rempart vers les années 50 ?
Alors, le rempart a dû s'affaisser un peu, ce premier rempart, hein, au bout d'une cinquantaine d'années. Donc vers le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant la guerre des Gaules, très probablement, les Gaulois en fait ont démonté le très beau parement en pierre. Ils ont laissé debout le poutrage interne, hein, on le voit encore dans la fouille, et ils ont appuyé sur ce premier rempart, un énorme rempart en terre, qui est constitué de plusieurs parties, qui est 3 fois plus grand, voire 4 fois plus grand que le Murus Gallicus, et qui lui est un rempart résolument défensif, avec un fossé à fond plat à l'avant, qui est le plus grand fossé à fond plat connu en Europe aujourd'hui, puisqu'il mesure 45 mètres de largeur. L'extraction de la terre de ce fossé a permis de construire ce rempart qu'on appelle massif, parce que c'est une masse de terre, qui s'élevait de plus de 10 mètres de hauteur, alors que le Murus Gallicus, lui, devait faire 4 mètres de haut. Donc c'est pas du tout la même conception de fortification. Là, on n'est plus du tout dans un rempart de prestige ou d'apparat. Là, on est résolument dans un cas de rempart militaire qui s'oppose à l'armée romaine.
C'est une œuvre considérable qui nécessite une mobilisation énorme.
Alors, il mobilise effectivement beaucoup de main-d'œuvre, aussi une volonté politique, c'est évident. Donc ça rejoint la question du pouvoir politique dans ces oppidas. Puisque bon, un rempart de ce type-là, qui est un rempart absolument colossal, a dû nécessiter une décision politique face à l'armée romaine, puisque sa conception date du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, et on ne peut pas faire autrement que de le rapprocher de la conquête romaine.
Alors on voit, vous avez pratiqué une sorte de coupe, de saignée, on voit d'ailleurs les couches qui s'empilent, on voit bien sûr les petites étiquettes aussi par la même occasion qui définissent chaque unité, et l'on voit surtout des couleurs très différentes. On est plutôt dans les bruns ocres, on est dans les gris verts, est-ce que ça vous dit des choses tout ça ?
Alors tout ça nous parle effectivement beaucoup. En fait, le rempart massif, donc qui est construit pendant la guerre des Gaules, il est composé de 3 parties principales. La première, c'est un noyau qui est c'est comme un gros talus qui est posé contre le Murus Gallicus. Et ce talus est surmonté par une sorte de blindage qui ressemble à un béton ou à du ciment et qui est en fait l'arme de ce rempart. Et ce rempart en fait a dû être conçu pour résister aux engins dont l'armée romaine était équipée, en particulier les catapultes et les balistes qui lançaient des grands boulets à plusieurs mètres de distance. Et on imagine bien, quand on voit ce blindage du rempart en terre, que les balistes et les catapultes devaient être complètement inefficaces sur ce genre de mur. En plus, les techniques de l'armée romaine sont principalement, pendant la guerre des Gaules, l'incendie des remparts, l'incendie des portes. Et sur un rempart en terre, en fait, l'armée romaine devait être complètement impuissante, puisqu'on ne peut pas brûler un rempart de ce type-là. Donc c'est un rempart qui a été manifestement conçu par des ingénieurs gaulois, des spécialistes militaires, pour contrer très précisément les techniques de l'armée romaine. Donc ils devaient connaître très précisément les armes et les tactiques de l'armée romaine, et ils ont construit ce type de rempart pour se défendre précisément contre ces tactiques.
On est dans la polyurcétique celtique ou romaine. Comment feront les Romains? Une sorte de sape, ce genre de choses?
Alors, c'est vrai que les Romains, devant des remparts en pierre, ont l'habitude de saper. C'est-à-dire qu'ils creusent des trous à la base des murs pour les faire effondrer. Ça, c'est les techniques vraiment caractéristiques et typiques des Romains, qu'ils ont dû employer d'ailleurs sur les Murus Gallicus, qui ont dû s'effondrer avec ce genre de tactique. Mais avec un rempart en terre comme le rempart massif, qui mesure 30 mètres de large à la base, et son fossé de 45 mètres de large, toutes ces tactiques sont complètement vaines.
Est-ce que vous avez des traces d'incendie ?
Non, il n'y a pas de traces d'incendie. Apparemment, les Romains ne sont pas venus jusqu'ici. Ou s'ils sont venus, ils ont peut-être renoncé à l'attaque. Ou en tout cas, dans la zone qu'on a fouillée entre 2016 et 2018, non, nous n'avons aucune trace d'incendie.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a un rempart d'une puissance absolument vertigineuse, je veux dire, alors que l'espace intérieur est quand même pas très très grand. On devrait trouver ce genre de rempart sur des ensembles encore plus grands, 100, 200, 300 hectares.
Alors, je pense que c'est pas une question de taille de l'oppidum. Bon, ici, on a un oppidum de 25 hectares, bon, qui évidemment est beaucoup plus petit que celui de Bibracte, hein, qui couvre 200 hectares. Mais la position topographique est très différente, hein. Ici, on n'est pas sur une hauteur très élevée, on est presque en plaine. Et c'est peut-être ce qui explique la taille du rempart. C'est-à-dire que ce rempart énorme compense la faiblesse de la hauteur topographique. Sur une hauteur beaucoup, beaucoup plus élevée, sur une véritable montagne, on n'a pas besoin de construire des remparts aussi puissants. Mais là, ce rempart colossal, sa présence se justifie peut-être par cette hauteur qui est très faible au départ.
En tout cas, ce sera une entreprise vaine, puisqu'il ne servira à rien.
Alors, il a peut-être servi à dissuader l'armée romaine, mais peut-être qu'il n'a pas été attaqué. On n'a pas de traces d'attaque, on n'a aucun objet qui prouve que l'armée romaine est passée par ici, mais elle est peut-être passée son chemin et allée ailleurs, puisqu'on sait qu'en 52 avant Jésus-Christ, après l'attaque d'Avaricum, César est parti à Gergovie, où il a connu sa défaite la plus cuisante, mais il aurait pu la connaître à Châteaumeillan.
Vous êtes dans une archéologie proto-historique monumentale, vais-je dire. Est-ce que vous avez pour autant de la culture matérielle datée de ces années 180 à 50 avant notre ère ?
Oui, dans la partie habitat que nous avons fouillée depuis une dizaine d'années, on a trouvé beaucoup d'objets de la vie quotidienne, des gens qui ont habité ici. Derrière ces remparts, d'abord le Murus Gallicus, ensuite le rempart massif, on a retrouvé, le site est très très bien conservé, on a retrouvé des maisons, des sols, des murs effondrés, et aussi beaucoup d'objets de la vie quotidienne, oui, de la vaisselle, des restes de repas, des parures... tout ce qu'on trouve sur des sites gaulois de cette époque.
En tout cas, en préparant cette émission sur Vicross, vous me disiez que vous aviez peu de monnaies. Les monnaies, vous en trouvez quelques-unes. Vous venez d'en trouver une aujourd'hui, d'ailleurs. Quelques-unes dans le rempart uniquement.
Alors, on en a dans le rempart. Là, bon, on a une concentration de monnaie qui est un petit peu étonnante, qu'on découvre là depuis quelques jours et qu'il va falloir expliquer par la suite. Et dans l'habitat, c'est un site sur lequel il y a assez peu de monnaie. On a de toute façon assez peu d'objets métalliques, on a affaire manifestement à des gens qui sont très économes ou qui n'utilisent peut-être pas la monnaie ou qui utilisent peut-être d'autres moyens d'échange que la monnaie. C'est un des oppidas sur lesquels on a le moins de monnaie en Gaule et c'est une situation qu'on n'explique pas encore très bien.
Rome va conquérir la Gaule, que devient Châteaumeillan ? Rien, il part dans l'oubli ?
Alors pas du tout, non, c'est un site qui continue à être occupé après la conquête romaine et qui est occupé encore de nos jours. Il fait partie de ces sites qui ont une occupation très ancienne, qui remonte à plus de 2000 ans et qui existe encore aujourd'hui, alors avec des hauts et des bas, des fluctuations, mais on a ici une ville romaine qui se développe après la conquête et puis une ville médiévale, une ville moderne et la ville actuelle avec sa paroisse médiévale qui est encore utilisée. Non, c'est une preuve de très très belle continuité pendant plus de 2000 ans, comme on en a ailleurs en France.
Vous ne vous êtes pas intéressé aux Romains?
Alors si, j'ai dû aussi fouiller toute une série de structures romaines depuis 18 ans, et notamment des puits qui sont bien connus ici, bon, qui font partie des choses qui sont les plus connues à Châteaumeillan. On a des puits gaulois, mais on a aussi beaucoup de puits romains. Et notamment, la plus belle découverte que nous avons faite, c'est en 2012. On a retrouvé dans un puits daté des années 240 après Jésus-Christ, un puits qui mesurait 14 mètres de profondeur, un dépôt d'objets en bronze absolument extraordinaire, dont un grand lion qui pèse à peu près 4 kilos, avec des yeux incrustés d'argent, et aussi une voiture romaine intacte, en complète.
J'ai jamais eu connaissance en France de voitures romaines. Quand vous dites voiture, c'est quoi, des charrettes?
Alors en fait, c'est un char à quatre roues avec un train avant pivotant qui devait servir à transporter soit des personnes, soit des matériaux. Donc c'est comme un chariot, mais c'est un véhicule à quatre roues.
Vous avez essayé de le remonter?
Alors c'est en cours, les travaux de restitution sont en cours. Enfin, les études ne sont pas terminées puisque cette découverte remonte à 2012. Comme le puits contenait 6000 objets, on est encore en train de les étudier.
Pourquoi 6000 objets ?
Alors ce sont la plupart des objets, enfin tous les objets se trouvaient au fond du puits, dans le dernier mètre de comblement, et certains d'entre eux constituent un dépôt rituel, notamment les très beaux objets en bronze qui ont été trouvés au fond du puits. Le bris et le jet de cette voiture dans le puits est peut-être aussi un dépôt rituel. Ou alors on s'est débarrassé d'une voiture qui ne fonctionnait plus et qui a été jetée dans ce puits, on ne sait pas.
L'époque médiévale aurait aussi quelques beaux vestiges qui ne seraient pas encore fouillés?
Alors moi je ne m'occupe pas de cette période-là en fait, parce que je suis proto-historienne, je travaille sur la période gauloise, un petit peu sur l'époque romaine, mais pas du tout sur le Moyen-Âge. Pourtant il y a beaucoup à faire ici.
Votre chantier, vous voyez comment prochainement conserver, reboucher, mise en valeur, il faudrait encore fouiller beaucoup de choses. Je sais par exemple que vos 25 mètres de mur gaulois, Murus Gallicus, se terminent bien sûr par une sorte de décrochement, quelque chose de très mystérieux.
Alors effectivement, on a eu beaucoup de questions. On n'en a évidemment pas fini avec ce rempart, bon, qui mesure plusieurs kilomètres de long. Là, on en a ouvert 25 mètres, donc rien n'est terminé. Pour ma part, je vais m'arrêter là parce que, après 18 ans de fouilles, je vais peut-être aller faire autre chose et laisser peut-être aux générations futures le soin de prolonger ces fouilles. Alors, malheureusement, sur un chantier comme ça, où le rempart est en terre, on ne pourra pas le conserver. Donc, tout sera rebouché à la fin des fouilles. On va essayer de conserver une petite partie du Murus Gallicus pour que le public puisse en profiter. Mais on ne pourra pas conserver l'intégralité du rempart, non.
Et ce petit décrochement que je vois là-bas, qui me paraît bien curieux?
Alors le petit décrochement, en fait, c'est peut-être un changement d'orientation dans le mur. Ça peut être aussi l'emplacement d'une tour dans le Murus Gallicus, ou ça peut être ce qu'on appelle un redent, c'est-à-dire un décrochement pour donner une autre direction au mur. Comme nous sommes ici dans l'angle de l'oppidum, il est possible que le rempart ait suivi un autre tracé.
Sophie Kroos, 18 ans, c'est votre plus beau chantier?
Alors ici, je pense que oui. C'est ma plus belle fouille, enfin je pense, mais peut-être que les archéologues disent ça tous les ans, que c'est leur plus belle fouille. Mais là, moi, je pense que c'est le cas, quand même. Je suis très content d'avoir fait cette fouille qui me permet de voir le rempart dans son intégralité.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Olivier Dupré et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture sera entre Nil Blanc ou Nil Bleu pour évoquer les dernières découvertes nubiennes.